Bonjour chères auditrices et auditeurs, au micro Ilan Rosanquier qui a le plaisir de vous présenter un nouveau numéro de Chronique pour la paix. Aujourd'hui nous avons en ligne, en direct de Tel Aviv, Élie Barnavi. Bonjour Élie.
Bonjour.
Élie Barnavi, donc historien, ancien ambassadeur d'Israël en France, directeur du comité scientifique du Musée de l'Europe à Bruxelles, pour l'interroger sur l'événement qui constitue sans conteste l'élément marqueur de la vie politique israélienne de ces derniers jours, la prise de parole de Benny Gantz mardi dernier. Benny Gantz, comme nous le savons, est un nouveau venu sur l'échiquier politique, puisqu'il y a peu de temps, il vient de créer son parti politique Chosen pour Israël, Résilience pour Israël. Mais si c'est un nouveau venu, ce n'est pas un inconnu. Tout le monde se souvient de son passage au poste de chef d'état-major de l'armée d'Israël. Par contre, son positionnement politique est resté ambigu, pour ne pas dire flou, et donc les observateurs attendaient avec impatience une clarification. Élie Barnavi, avez-vous l'impression qu'il y a eu clarification de la position de Gantz suite à son intervention de mardi dernier, le lancement de sa campagne électorale?
Oui, je ne pense pas que l'on puisse honnêtement dire qu'il n'a rien dit. Il a tenu un discours fort, musclé, plus riche que ce qu'on attendait, franchement, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, il a surtout été, il s'est surtout tué dans toutes les langues. Et là, il a dit des choses. Il a dit des choses très clairement. Il s'est positionné sur l'échiquier politique israélien. Et ça lui a réussi, puisqu'il y a eu un formidable rebondissement dans les sondages. Il est devenu d'un coup, l'espace d'un discours, il est devenu le challenger du Premier ministre.
Tout à fait. Nous reviendrons sur l'impact de ce discours. Vous dites qu'il s'est positionné. Quelle position a-t-il pris? Où se situe-t-il sur l'échiquier? Bien entendu, la droite l'a accusé d'être un gauchiste, ce qui est un terme particulièrement péjoratif en Israël. Mais qu'en est-il plus précisément?
Oui, enfin, la droite s'est couverte de ridicule parce que c'est à la mesure de son... De sa panique. Il a tenu, Gantz a tenu un discours classique de droite sur le plan sécuritaire et libéral sur le plan sociétal et des mœurs et des institutions. Et donc il a fait un discours, si vous voulez, dans la veine de ce que pourrait faire quelqu'un comme Benny Begin ou le président de l'État, Rubi Ripi. C'est un discours très musclé, un discours qui menace de foudre d'Israël tout ennemi qui nous ferait de l'ombre, qui ne se prononce pas pour deux États, pour deux peuples. Il s'est bien gardé de dire cela. Il a dit quelque chose de vague sur une aspiration à la paix, mais c'est, qui réunit tout le monde. Et donc, non seulement ce n'est pas un discours de gauche, c'est un discours de droite dur, avec des accents libéraux. Et donc les cris d'orfraie de la droite, c'est ridicule. Enfin, l'homme n'est pas de gauche. Et d'ailleurs, les ouvertures de Tzipi Livni qui voulaient se joindre à Benny Gantz ou des travaillistes qui ont aussi tenté de faire front commun avec lui, se sont heurtées à un refus net. Il ne veut pas apparaître comme touchant même de loin à tout ce qui pourrait ressembler à une gauche aussi pâle et rose soit-elle.
Oui, c'est sans doute cela qui lui a permis donc cette progression dans les sondages qui est effectivement assez étonnante.
Oui, c'est possible. Franchement, je n'en sais rien. Toujours est-il que telle est la situation d'Israël et telle que c'est que le mot gauche est devenu un gros mot, si vous voulez. C'est une insulte.
C'est donc, une insulte, oui, c'est quelque chose qui déconsidère.
Dans l'optique qui veut que l'on puisse grappiller quelques voix sur les franges modérées du Likoud, tous ceux qui sont candidats au poste de Premier ministre, ces gardiens de se proclamer non seulement ceux de gauche, mais de laisser quelques que ce soit à les forces de gauche.
Espérons que le terme de démocrate ne connaîtra pas le même sort que celui de gauche en Israël. Et donc, à votre avis, compte tenu de cette poussée dans les sondages, quelle devrait être, selon vous, la stratégie qu'il devrait suivre pour pouvoir se maintenir et conforter son positionnement actuel ?
Le grand défi, si vous voulez, c'est qu'il ratisse large, c'est-à-dire qu'il ait une liste assez attrayante pour beaucoup de monde. C'est pour ça qu'il essaie, non, il repousse la gauche, certes, mais il essaie d'attirer quelqu'un comme Orly Lévy
Abikassis,
la fille de l'ancien ténor du Likoud, de David Lévy. Il essaie d'attirer d'autres éléments de ce qu'on appelle ici la périphérie. Et je crois qu'il a raison. C'est-à-dire que l'homme doit paraître comme un recours, non seulement personnel, mais aussi comme un véritable recours politique. Et donc, s'il veut être un recours politique, il faut qu'il se présente comme quelqu'un capable de présenter un front social et culturel assez large. Alors, pour le reste, on verra bien. Il se peut que cet engouement se tasse, mais je pense qu'il y a de fortes chances qu'il soit effectivement le grand challenger de Netanyahou. Et tous les sondages disent, s'il se mettait ensemble avec Lapid, par exemple, il apportait la mise. Alors, il y a beaucoup d'inconnus, évidemment. On ne sait pas ce qui va se passer avec la mise en examen du Premier ministre.
Attend la position de Mandelblit dans les jours qui viennent, normalement.
Voilà. Et là, on saura. S'il est mis en examen, les sondages vont quand même lui promettre quand même la perte de 4 mandats. Moi, je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à tenir le coup, même si il dit qu'il ne s'alliera en aucun cas jusqu'à ce qu'il soit vraiment devant les tribunaux, puisque la loi ne l'y oblige pas. C'est vrai, mais la logique politique n'est pas exactement la même que la logique de la loi. Et donc on verra bien. Là-dessus, d'ailleurs, Gantz a été très clair. Il a dit que l'idée qu'un premier ministre en exercice puisse continuer à gouverner le pays alors qu'il est sous occupation lui paraît un défi ridicule.
Donc là aussi, on a l'impression qu'il a essayé d'ouvrir une alternative aussi et de ratisser large, pas seulement au niveau politique, mais également au niveau des valeurs, au niveau d'une espèce de morale politique qui se serait un petit peu dégradée ces derniers temps.
Ça c'est très important. Vous savez, la paix est une affaire assez élusive et compliquée. Maintenant, ce qui devient le plus urgent, en fait, c'est de restaurer l'État à ce délabré de la démocratie israélienne, les institutions, le style de gouvernement. Et de ce point de vue-là, Gantz est un bon candidat, c'est un honnête homme. C'est là tout le monde le lui reconnaît. Et je pense que quel que soit le premier ministre qui viendrait à la place de Netanyahou, sauf s'il est encore plus à droite que lui, mais ça devient compliqué. je pense que quel qu'il soit, il va redonner un peu de lustre aux institutions démocratiques de ce pays.
Mais est-ce que son caractère de néophyte, entre guillemets, ne pourrait pas lui nuire ? Parce que tous les généraux, tous les militaires, pas seulement en Israël, mais même aux États-Unis, par exemple, on pense au général Eisenhower, qui sont passés de l'armée à la politique, ont quand même acquis une expérience politique avant de parvenir à des fonctions élevées. On pense à Rabin, qui a été ambassadeur, qui a été ministre avant d'être Premier ministre. Est-ce que là, de sauter directement du poste de chef d'état-major à Premier ministre, ça serait une première ?
Eisenhower est passé directement de l'armée à la présidence. C'est pas un peu bon exemple. Il y en a eu plusieurs comme ça. Et même ici, parfois le passage se fait de cette manière. C'est plus difficile aujourd'hui parce qu'il faut une période de cooling, de refroidissement, comme ils disent. Mais je veux dire, le manque d'expérience politique, en ce moment ici, de paraître plutôt un atout. Les gens ont soif de changement, ont soif de visages frais. Il y a une espèce de, on sent prendre une espèce de dégagisme, hein, un peu comme, comme en Europe. Et si vous voulez, c'est, je ne vais pas faire des comparaisons stupides, mais de la même manière que Macron a pu l'emporter, précisément parce que c'était un homme nouveau, comme disaient les Romains, un homme nouveau, de la même manière, je vois bien que la, quelqu'un comme Gantz, avec son allure, avec son passé militaire, avec sa, son aura et sa virginité politique, puisse séduire une bonne partie de l'électorat israélien, précisément parce qu'il est, il est neuf, il n'est pas entaché.
Il est neuf, il est propre. Vous considérez que ça peut être plutôt un atout qu'un inconvénient. On entend dans certains cas des comparaisons, des rappels de Rabin. Avez-vous l'impression qu'il ne s'agit pas de faire de comparaison, mais de rappel, de se situer dans cette perspective, ça vous paraît correspondre à une certaine réalité?
Oui, enfin, ce sont les mêmes... Même carrière, même racine socio-économique. La comparaison n'est pas idiote. Sauf que, souvenez-vous, le premier passage de Rabin aux affaires a été catastrophique. Hein. C'est pas vraiment une réussite. Il a été vraiment exceptionnel que lors de son second passage. C'est un cas de figure d'ailleurs qui n'est pas si exceptionnel que cela. Pensez à quelqu'un comme Churchill, par exemple, qui n'a été bon que pendant la guerre. Il a été mauvais avant et après. Ce sont des cas qui se répètent dans l'histoire. Et je pense que la comparaison avec Rabin n'est pas mauvaise. Quelqu'un comme Gantz pourrait refaire une espèce de carrière à la Rabin. Encore faut-il pour cela qu'il ait la majorité nécessaire, et surtout qu'il ait un set d'idées, une idéologie, un plan d'action qui soit tant soit peu cohérent. C'est que Rabin n'avait pas, il a fini par l'acquérir,
et oui, c'est comme ça
qu'il a pu laisser une griffe sur l'histoire. Même si les circonstances ayant été ce qu'elles ont été, il n'a pas pu transformer l'essai. Alors Gantz, oui, c'est possible. Enfin, vous savez, moi je me méfie un peu de ces gens qui bondissent sur la scène politique à peine enlevé l'uniforme. Mais c'est comme ça, vous savez, nous sommes en Israël.
Tout à fait. Ce n'est pas la première fois que ça se produit, ça ne sera sans doute pas la dernière. Voilà. Notre entretien touche à la fin et je le regrette car il y aurait beaucoup de choses à dire, mais nous aurons sans aucun doute l'occasion d'y revenir. Il est clair en tous les cas que Benny Gantz aujourd'hui a une existence réelle dans le champ politique israélien. Il y a quelque temps, on disait, à part Netanyahou, il n'y a personne. Aujourd'hui, il y a un possible. Ce possible n'est pas certain. Nous verrons bien ce que l'avenir nous réserve. En tous les cas, il me reste à vous remercier de nous avoir accordé cet entretien.
Merci à vous.
Au revoir, Élie, merci. Il me reste à préciser pour nos auditeurs que le mardi 12 février, en coopération avec l'Espace culturel universitaire juif d'Europe, l'ECUJ, nous recevrons l'écrivain israélien qu'il est inutile de présenter, Avraham Yehoshua, à l'ECUJ, au 110 rue Lafayette. L'excellentissime Esther Lenman l'interrogera sur son nouvel ouvrage qu'il vient de sortir aux éditions Grasset Le Tunnel, et moi-même je parlerai politique avec lui, encore que cette séparation n'ait pas énormément de sens. Vous trouverez sur le site de La Paix Maintenant, lapaixmaintenant.org, toutes les informations sur cette prochaine rencontre, donc du 12 février avec Alef Beit Yehoshua. Et il ne me reste plus qu'à souhaiter à toutes nos auditrices et auditeurs un excellent Shabbat et à dans 2 semaines, en espérant que Uzi Meyerson aura recouvert sa santé. Merci.